l'actualité, la culture, l'histoire, l'économie. Découvrez la Corée sous tous les angles sur KBS World Radio.
Séoul, au jour le jour. Bonjour à toutes et à tous et merci de nous rejoindre pour cette nouvelle édition de votre magazine de société Séoul au jour le jour. La Changhwadae ou la Maison Bleue, l'ancien palais présidentiel situé en plein cœur de la capitale, a ouvert ses portes au public le 10 mai dernier, le jour de l'investiture du nouveau président Yoon Suk-yeol. Lorsque la nouvelle équipe présidentielle avait annoncé sa décision de rendre accessible à tous ce lieu, considéré jusque-là comme un symbole du pouvoir, les réactions étaient partagées, entre attente et inquiétude. Plus d'un mois s'est écoulé depuis son ouverture et l'heure est au premier bilan. La Changhwadae s'impose comme l'un des sites touristiques incontournables de Séoul. Jusqu'à présent, elle a attiré plus de 770 000 visiteurs. À titre de comparaison, le palais Changdeok-gung, la dernière demeure des descendants de la famille royale coréenne, a accueilli 640 000 visiteurs au cours de l'année dernière. Cette influence se retrouve dans les quartiers avoisinants. Notons que la ville de Séoul a installé préalablement l'ouverture de la Changhwadae des compteurs piétons dans 23 endroits aux alentours, dont des rues et des stations de métro, pour mesurer la fréquentation. Selon les chiffres de la ville de Séoul, pendant la journée de la veille de l'ouverture de l'ancien palais présidentiel, les quartiers de Changhun et Hyoja ont été fréquentés par 23 000 personnes. Ce nombre est passé à 29 000 dès le premier jour de l'ouverture du site. La station de métro Gyeongbokgung, la plus proche de la Changhwadae, a vu le nombre de ses utilisateurs se multiplier par 4. Le nombre de piétons qui empruntent la rue Hyojalo, qui longe le côté ouest du palais Gyeongbokgung, jusqu'à la Changhwadae a également grimpé en flèche en passant de 3 000 à 10 000 par jour le week-end et de 3 700 à 9 800 quotidiennement en semaine. Les commerces bénéficient eux aussi des retombées de l'ouverture de la Maison Bleue. Selon les données de transactions par carte bancaire compilées par la ville de Séoul, le nombre de clients dans les magasins à proximité du site a augmenté de 13%. Les cafés et les restaurants ont vu leur chiffre d'affaires croître de 20%. Cependant, cette hausse de fréquentation ne fait pas que des heureux. En effet, de nombreux habitants se plaignent des déchets et des stationnements illégaux. Le nombre de plaintes pour nuisances sonores déposées aux autorités a atteint 12 pour le seul mois de mai, alors qu'il n'était que de 5 sur l'ensemble des 4 mois précédents. Des mesures pour limiter les gênes occasionnés aux habitants devraient être mises en œuvre en urgence. Une tâche qui nécessite une coordination entre la municipalité, la police, mais aussi l'administration du patrimoine culturel chargée de la gestion de la Changhwadae. Et c'est bien les dramas coréens, la pop musique coréenne ou le cinéma coréen qui ont donné naissance à la Hallyu ou la vague coréenne. Mais il n'y a pas que ça. Le hanbok, le vêtement traditionnel coréen, suscite également l'attention du public étranger aujourd'hui, et ce notamment grâce aux stars de la K-pop comme BTS ou Blackpink, qui ont porté ce costume traditionnel sur scène ou dans des clips vidéo. Les fans de la K-pop sont nombreux à se renseigner sur internet pour savoir où ils peuvent acheter le même vêtement que celui porté par leurs idoles. Cependant, en Corée du Sud, le hanbok n'a jamais vraiment fait l'objet d'un engouement particulier. Pour les habitants du pays du matin clair, c'est juste un costume qui se porte pour des fêtes folkloriques comme Seollal, le nouvel an lunaire, ou des occasions spéciales comme le mariage. En effet, ce vêtement traditionnel est certes beau avec ses couleurs vives et ses lignes élégantes, mais peu confortable au quotidien. Pourtant, conscient de l'intérêt qu'il suscite à l'étranger, les Sud-Coréens se penchent depuis quelques années sur les moyens d'intégrer ce costume dans la vie quotidienne, mais aussi de le promouvoir dans le monde. Parmi les acteurs qui participent à ces efforts se trouve la province de Gyeongsang du Sud. Cette région est déjà connue pour son art de création de hanbok et pour son industrie textile. Parmi les 12 maîtres artisans nationaux de Hanbok, 8 sont basés dans cette province. Celle-ci a aujourd'hui pour ambition de devenir la capitale incontournable du Hanbok et pour ce faire a mis en œuvre divers projets. En avril 2021, l'Institut coréen pour la promotion du Hanbok a été inauguré dans la ville de Sangju, située dans le nord-ouest de la province de Gyeongsang du Sud. Il abrite sur une superficie totale de 8000 m² des salles d'exposition et de promotion, des espaces pour les professionnels et des ateliers pour la formation. Par ailleurs, lors d'une réunion de hauts responsables de la préfecture de cette province tenue début juin, tous les participants étaient vêtus d'un hanbok moderne. Il s'agissait des vêtements sélectionnés à l'issue d'un concours de création de tenues de travail inspiré du hanbok et qui s'est déroulé récemment. Le préfet Lee Chol-woo, à l'origine de cette initiative, a affirmé que le personnel de la préfecture sera en première ligne pour essayer, évaluer et améliorer le hanbok version contemporaine en le rendant plus pratique et plus confortable. Et pour, à terme, promouvoir le port de ce costume non seulement parmi les Sud-Coréens, mais aussi à l'étranger. Et pour notre première pause musicale, voici une chanson de Blackpink intitulée « How You Like That » et dans ce clip vidéo de ce titre, le groupe féminin chante et danse en hanbok moderne.
Vous avez aimé, vous avez détesté, vous avez adoré. Faites-nous part de vos réactions en nous écrivant à french@kbs.co.kr.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Séoul le jour en compagnie de Franck Atlani en ce lundi 13 juin. Désormais, l'utilisation du nom ou de l'image des célébrités comme le boys band BTS ou le footballeur Son Heung-min dans le cadre d'une vente ou d'une promotion sans leur autorisation est passible de poursuites en vertu de la législation sud-coréenne. Car une nouvelle loi sur la prévention de la concurrence déloyale qui protège le droit de publicité est entrée en vigueur mercredi dernier dans le pays. Le droit de publicité est le droit de contrôler l'utilisation commerciale du nom ou de l'image d'une personne. Ce droit suppose que l'identité d'une célébrité a une valeur économique et que cette dernière résulte des efforts déployés par la star. C'est donc cette personne qui dispose du droit d'en tirer un gain commercial. En vertu de la loi, les marques permettant d'identifier une personnalité largement connue en Corée du Sud et ayant une valeur économique font l'objet de protection. Il s'agit non seulement du nom et des photographies de l'individu, mais aussi de sa voix ou de sa signature. Si quelqu'un utilise ces marques à des fins commerciales, sans consentement de la part du détenteur, et porte atteinte ainsi aux intérêts économiques de ce dernier, il viole alors la loi sur la concurrence déloyale. Ainsi, vous pouvez publier une photo de la chanteuse IU que vous avez prise sur vos réseaux sociaux, mais vous ne pouvez pas utiliser cette photo dans une publicité, pour par exemple votre boutique de vêtements. Les contrevenants s'exposent à des sanctions civiles ou administratives. Les victimes peuvent déposer une demande d'interdiction d'utilisation des marques en cause auprès du tribunal et réclamer une indemnisation en cas de dommage. Il est également possible de demander l'ouverture d'une enquête administrative au Bureau national de la propriété intellectuelle qui, à son tour, pourra émettre une recommandation de correction s'il le juge nécessaire. Jusqu'à présent, en Corée du Sud, les décisions de justice reconnaissant le droit de publicité aux célébrités et leur accordant une indemnisation appropriée ont été plutôt rares, puisque ce droit n'était pas explicitement formulé dans la législation du pays. En 2016, l'actrice Song Hye-kyo a intenté une action en justice contre un vendeur en ligne de boucles d'oreilles qui avait utilisé son nom et sa photo sans son consentement. Pourtant, à l'issue du procès, la star a dû se contenter d'obtenir 1 million de won, soit 740 euros de dommages et intérêts. « En Corée du Sud, avec l'augmentation du télétravail due à la crise du Covid-19, le harcèlement sexuel sur les lieux de travail a diminué en 2021 par rapport à il y a 3 ans. C'est ce que révèle le résultat d'une enquête effectuée par le ministère de l'Égalité des Sexes et de la Famille, publiée la semaine dernière. Selon cette étude, menée auprès de 17 000 employés dans 770 institutions publiques et 1760 entreprises privées, 7,9% des femmes et 2,9% des hommes ont été victimes au moins une fois d'harcèlement sexuel au travail au cours des 3 dernières années. Le taux moyen pour l'ensemble des sondés a été de 4,8%, soit un recul de 3,3 points par rapport à 2018. En outre, 5,5% des répondants ont dit avoir été témoins de tels agissements contre 11,2% 3 ans plus tôt. Cette baisse est attribuable, selon le ministère, au changement d'environnement de travail entraîné par la crise sanitaire. En effet, 9 personnes interrogées sur 10 ont indiqué que les repas ou les séminaires entre collègues en présentiel ont diminué avec la généralisation du travail à distance. Puis, 41% des personnes ayant été victimes de harcèlement sexuel ont répondu avoir subi de tels actes au bureau. 31% au cours d'un repas d'entreprise, alors qu'en 2018, l'ordre était inversé. À l'époque, 43% avaient déclaré avoir été harcelés sexuellement lors d'un repas et 36% au bureau. L'autre point à noter est que le ministère s'est également penché sur les enquêtes en 2021 sur l'espace virtuel, comme des groupes de discussion en ligne, des messageries ou des réseaux sociaux, et 4,7% des sondés ont répondu avoir vécu des abus sexuels sur ces lieux virtuels. L'enquête révèle également une forte réticence des victimes de harcèlement sexuel à s'exprimer. Pas moins de 66% d'entre elles n'ont pas réagi ou dénoncé ce qu'elles avaient vécu. Un chiffre toutefois en baisse par rapport à 2018, où leur proportion était de 81%. Parmi les victimes qui n'ont pas signalé ces atrocités, 60% ont estimé qu'il valait mieux les ignorer ou fermer les yeux. 33% ont craint une dégradation de leur relation avec l'agresseur. Et enfin, 22% ont pensé qu'une dénonciation ou une plainte auprès de la direction de l'entreprise ne servirait tout simplement à rien. Enfin, 20% des interrogés sexuellement abusés sur leur lieu de travail ont déclaré avoir fait l'objet d'une victimisation secondaire de la part de leur entourage, qui manifeste une hostilité à leur égard, ou qui essaie de leur faire porter la responsabilité et de les culpabiliser. Le ministère de l'Égalité des Sexes et de la Famille a terminé son rapport en annonçant son intention de procéder à une révision des lois concernées de manière à obliger les chefs d'entreprise et de service à prendre des mesures de protection concrète des victimes en cas de harcèlement sexuel au travail. Et voici venu le temps de notre deuxième pause musicale. Je vous propose d'écouter Ne me touche pas, Son Dejima, interprété par Hailey. Ils ont un magnétophone à la main, des écouteurs dans les oreilles et suivent le sentier au milieu de la fraîcheur des bois sur l'île méridionale de Jeju. Ils savourent pleinement le bruissement des feuilles, le murmure du vent, le chant des oiseaux et respirent à fond l'air pur de la nature. Ce sont les non-voyants ou les malvoyants qui participent à un programme de voyage spécialement conçu pour eux par les autorités locales de cette île touristique située au sud de la péninsule coréenne. La préfecture de la province de Jeju et l'office du tourisme de Jeju ont organisé du 8 au 10 juin un voyage de familiarisation pour un groupe de 20 personnes en situation de handicap visuel. Chacun des participants à ce programme baptisé « Rencontrer Jeju à travers les sons » a été accompagné d'un membre de leur famille ou un ami, ainsi que d'un guide qui l'assistait tout au long du voyage. Cette initiative a été réalisée en collaboration avec une start-up locale nommée Sleeping Lion. C'est une entreprise spécialisée dans les contenus audio et vidéo basée sur l'ASMR, une méthode de relaxation qui repose sur l'écoute de sons doux et répétitifs. Elle utilise notamment les sons enregistrés dans la nature à Jeju pour créer des clips audio destinés à faciliter le sommeil des bébés. Elle a mis à profit confie son savoir-faire pour contribuer à l'élaboration de ce programme touristique dédié aux personnes souffrant d'un handicap visuel. Pendant 3 jours, les participants ont pu admirer la nature de l'île à leur manière et à leur rythme. Ils se sont laissés bercer par les sons provenant de la forêt et les ont enregistrés eux-mêmes à l'aide d'un magnétophone pour pouvoir les garder comme souvenir. À côté de ce programme, la préfecture de la province de Jeju a mis en place d'autres formules de voyage adaptées aux personnes malvoyantes, qui par exemple leur permettent de découvrir les odeurs de la nature, de préparer et de déguster des spécialités culinaires locales, ou encore de se balader en drésine et de découvrir les grottes de cette île volcanique. Kang Moon-sok, chef du projet chargé de l'innovation touristique de l'Office de tourisme de Jeju, a mis en avant le fait que les formules de voyage destinées aux personnes en situation de handicap se focalisent souvent sur des itinéraires accessibles aux visiteurs, à mobilité réduite ou en fauteuil roulant, avant d'affirmer qu'il continuera à élaborer des programmes variés pour mieux répondre à la diversité des handicaps des voyageurs ainsi qu'à celle de leurs envies. Le 1er juin dernier, se sont déroulées les élections locales et les législatives partielles en Corée du Sud. Les tracts, les brochures, les affiches ou encore les banderoles fabriquées pour les campagnes électorales sont devenues désormais des déchets. Alors que la prise en charge de ces détritus constitue souvent un casse-tête pour les collectivités locales, la ville de Séoul a trouvé une bonne idée pour recycler une partie des banderoles qui ont été placées dans les rues de la capitale lors de ces dernières élections. Elle a annoncé la semaine dernière avoir lancé un projet de recyclage des bannières utilisées pour le scrutin du 1er juin en les transformant en objets design sous forme de sacs à main, de sacoches ou encore de portefeuilles. Et ce, en coopération avec les maires d'arrondissement de la capitale et avec le Seoul Upcycling Plaza, un complexe dédié à la réutilisation des déchets urbains. Lors d'une enquête préalablement effectuée, 11 des 25 arrondissements de Séoul ont exprimé leur intention de participer au projet. Selon l'estimation de la ville, environ 3580 banderoles devraient être récupérées dans les arrondissements concernés. En général, les bannières sont faites de plastique synthétique et leur incinération génère une énorme quantité de substances nocives, voire même cancérigènes. Or, après les élections présidentielles du 9 mars, près de 90% d'entre elles utilisées dans la capitale pour la campagne électorale ont fini par être enfouies ou pire, incinérées. En effet, la collecte et la gestion des banderoles usées révèlent de l'autorité de la mairie et de chaque arrondissement. Mais en raison d'un manque de ressources, les possibilités de reconversion de ces déchets sont plutôt limitées. Ils se transforment au mieux en paniers de course ou en sacs destinés au sable de déneigement. Alors, la ville de Séoul a décidé de venir en aide à ses arrondissements avec cette nouvelle initiative. Elle entend contribuer aux enjeux écologiques et économiques à travers la valorisation des ordures sous forme d'objets design. Elle prévoit également d'analyser les résultats du projet une fois qu'il sera terminé et d'examiner la possibilité de développer un système permanent de collecte et de réutilisation des banderoles produites non seulement lors des élections, mais aussi dans la vie quotidienne. Et c'est le moment de passer le micro à Ijeon pour Focus Asie. Avant de la retrouver, écoutons La chute de la terre d'Igu Myolmang, interprétée par Bio.
Mom, I couldn't go get tight. Some don't know, Gianna. No one, I'm a master. Has some money done, and I'm a little gone. No, 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 no,
Bonjour, bienvenue dans ce nouveau numéro de Focus Asie. Voici notre première nouvelle. Quelle est la ville la plus chère du monde pour les expatriés? Selon une enquête annuelle du cabinet des conseils ICI International réalisée auprès de 207 villes des 120 pays, Séoul se situe au 10e rang du classement des villes les plus chères au monde, descendant ainsi de 2 crans. Hong Kong en occupe la tête pour la 3e année de suite. Elle est suivie par New York, Genève, Londres, Tokyo et Tel Aviv. L'étude a analysé les loyers, le coût des transports, des factures d'électricité, d'eau et de gaz, ainsi que les prix des aliments, entre autres. Hong Kong a affiché le coût de la vie le plus élevé, notamment à cause de la hausse de son dollar par rapport aux autres monnaies. En revanche, les villes japonaises comme Tokyo et Yokohama ont cédé des places en raison de l'affaiblissement du yen. Par ailleurs, Ankara, la capitale de la Turquie, est classée comme la ville la moins chère dans le monde. Les autorités sanitaires chinoises ont conseillé aux habitants de Dandong, dans la province du Liaoning, de fermer les fenêtres quand le vent du sud souffle. Objectif, se protéger du COVID-19 qui s'envolerait depuis la Corée du Nord. D'après l'agence Bloomberg, Dandong, ville frontière séparée par le fleuve Amnok, est mise en quarantaine depuis fin avril. Elle n'a recensé aucun nouveau cas confirmé depuis le 10 juin. Cependant, la semaine dernière, de nouvelles infections sont tout à coup survenues alors que la plupart des patients restaient chez eux depuis au moins 4 jours. C'est pourquoi les autorités publiques soupçonnent la contamination par le vent depuis son pays voisin. Mais cette directive a été reprochée par les internautes chinois qui trouvent illogique que le virus puisse se propager sur plusieurs centaines de mètres dans l'air. Le Japon a rouvert ses frontières aux voyageurs étrangers depuis vendredi dernier. Mais la nouvelle directive sanitaire, publiée récemment par l'Office du tourisme japonais, fait couler beaucoup d'encre parce qu'elle est excessivement contraignante et détaillée. Les réglementations sont réparties en plusieurs catégories. Situation générale, hôtel, transport, shopping et site touristique. Par exemple, dans les bains thermaux, il n'est pas obligatoire de porter un masque, mais il est préconisé d'éviter de parler. Les voyageurs sont aussi conseillés de visiter les destinations touristiques quand il y a moins de fréquentation. L'Office Nippon prévoit de rendre publique la liste des agences de voyage qui ne respectent pas la directive sanitaire et d'interdire aux pires élèves d'accueillir des visiteurs étrangers. Le cabinet thaïlandais vient d'approuver le projet de loi sur le partenariat civil qui permet aux couples de même sexe d'enregistrer leur union. Selon le quotidien Bangkok Post, il faut désormais le consentement du Sénat. Ce texte stipule que les couples homosexuels ayant paraphé ce contrat disposent des mêmes droits légaux que les personnes mariées concernant les biens personnels et communs, ainsi que l'adoption d'un enfant. Cette proposition de loi a été élaborée en juillet 2020, mais l'approbation a été reportée par l'opposition du ministère de la Justice, qui se voulait être prudent. Le premier ministre Prayut Chan-o-cha a expliqué que cette décision vise à répondre aux changements mondiaux sur l'égalité des sexes et de la diversité sexuelle. Voici notre dernière nouvelle. Eileen Gu, championne olympique chinoise, est sous le feu des critiques dans l'ambiance du milieu. Mercredi dernier, la skieuse acrobatique a affirmé qu'elle serait ambassadrice pour la candidature à l'organisation des Jeux olympiques d'hiver de Salt Lake City aux États-Unis en 2030 ou 2034. Cette déclaration a été faite lors du sommet Time 100, l'événement organisé par le magazine américain. Les internautes chinois sont indignés par cette nouvelle en la qualifiant d'opportuniste. Certains se sont demandé si l'athlète pourrait encore faire partie de l'équipe chinoise après avoir travaillé pour les États-Unis. Gu est née d'un père américain et d'une mère chinoise. Elle a grandi et appris le ski au pays de l'oncle Sam, mais elle porte le drapeau chinois depuis 2019. Elle est devenue une star nationale en remportant 2 médailles d'or et 1 argent lors des JO d'hiver de Pékin cette année.
Vous Voilà, ainsi s'achève votre Séoul au jour le jour. En espérant que cette édition vous a plu, rendez-vous du lundi au jeudi, même heure et même fréquence. C'était Choi Soyeon à la rédaction, Franck Atlani au micro et Kim Hongju à la réalisation. Merci de nous avoir suivis et je vous souhaite une excellente semaine.